Radio-Canu vous présente, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Robert. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Avec un mal de tête terrible. Oh là là. Il va falloir que je revienne encore cette nuit. Il se soulève difficilement et regarde l'heure à sa montre. 8h30. Il faut que je me dépêche de rentrer. Comment elle va être aujourd'hui? Il se lève. Il a un pyjama marron. Ses cheveux sont en broussailles. Il marche pieds nus dans la chambre et ramasse ses vêtements qui sont à terre.
Quelle nuit j'ai passé! Quelle idée aussi de se lancer dans une telle aventure! Non, ce ne sont pas mes chaussettes, celles-là!
Il les prend, entreballe le placard penderie et les jette les chaussettes dedans.
Voilà.
Après avoir fermé le placard, il s'habille.
Ne pas oublier de prendre un carré pour ce soir et le sac plastique. J'espère que ça ne va pas sentir mauvais dans la journée. Bon, et ben voilà, je suis habillé.
Il va vers la glace qui se trouve au-dessus de la commode. Il veut s'arranger les cheveux. Il prend un peigne dans la poche de son portefeuille, de sa veste.
Voilà, je n'ai rien oublié.
Il regarde autour de lui. C'est une grande chambre. Les volets de la fenêtre n'ont pas été ouverts. Il y a en plus de la commode un grand lit à deux places, en fer, une table de nuit en bois 1930, une lampe dessus, une armoire, une chaise et un placard penderi. Il sort de la pièce et descend les escaliers. Arrivé en bas, il rencontre la concierge qui balaye l'entrée. Grosse et petite femme avec un chignon.
Bonjour, monsieur Auguste.
Bonjour, madame Benoît.
Et il sort. Il suit la rue longue. dirige place des Terreaux et monte rue de l'Annonciade. Il entre dans un vieil immeuble, le numéro 14. Il monte au troisième étage. Ouvre la porte de l'appartement en évitant de trop faire de bruit. Hurle d'entrer dans la pénombre. Il quitte son manteau gris, chapeau et foulard marron qu'il met sur un porte-manteau en bois. Puis, il se dirige sur la pointe des pieds dans sa chambre qui se trouve au fond du couloir. Il ouvre la porte et entre. Sa chambre est toute petite. La fenêtre est fermée par un store en bois. Il y a, sur toute la surface d'un pan de mur, un lit à une place défait. Puis, de l'autre côté, une vieille armoire à glace 1930, un bureau rempli de livres et de papiers, et une chaise. Il se déshabille et met un pyjama à rayures blanc et bleu. Il met des pantoufles bleues et il va ouvrir le store de la fenêtre. Il sort de la chambre. Il va dans la petite salle d'eau qui se trouve à côté de sa chambre. Qu'il est sorti de la salle d'eau, il frappe à la porte de la chambre de sa mère.
Est-ce que c'est ?
C'est moi.
Il est quelle heure ?
9h30.
Il entre. La pièce est aussi dans la pénombre. Il s'approche du grand lit. Le lit prend presque toute la place. L'on voit dans le lit tête de vieille femme maigre, ridée, les cheveux blancs. Il se penche et l'embrasse sur le front.
Tu ouvres les volets ?
Oui.
Il va ouvrir les volets et fermer les rideaux. Chambre guère plus grande que la sienne. Armoire, commode 1930. Sur la commode, des sous-verts avec des photographies de la famille. Au-dessus du lit, un crucifix en bois avec une branche de buis. La mère sort du lit. Elle est en chemise de nuit blanche, toute petite et maigre. Elle met ses chaussures et prend la robe de chambre qui se trouve sur une chaise. Robe de chambre est en laine rouge.
Tu ne travailles pas aujourd'hui ?
Non.
Tu as été voir le courrier ?
Non.
Je vais faire un petit déjeuner.
Ils sortent tous deux de la pièce. La mère paraît toute petite et menue à côté de son fils, qui est grand, gros. Il a une tête ronde avec des grosses lèvres et des lunettes de myope qui cachent ses gros yeux marrons. Il est brun, a 30 ans et met en paraît plus. Pendant que sa mère prépare le petit déjeuner, il est allé à la boîte aux lettres en pyjama. La boîte est bourrée de prospectus, de factures, une lettre de la NPE. La lettre de la NPE, il la met dans son pantalon de pyjama et monte le courrier. La journée se passe tranquillement. Sa mère dans la cuisine lit France Dimanche. Et lui dans sa chambre lit des prospectus sur le théâtre. Le soir après avoir dîné, il sort. Il est 20h30, il fait jour et les rues sont encore pleines de monde. Il se dirige rue Longue. Entre dans l'immeuble. Frappe à la porte de la concierge qui ouvre.
Je vais voir si vous n'avez pas reçu un petit colis pour moi.
Entrez, je vous en prie.
Il entre dans un petit couloir. Le concierge est parti dans une autre pièce. Il regarde les clés qui sont pendues sur un tableau au mur, avec sur chaque emplacement un papier collé qui indique quelle clé c'est. Il prend un carré et le met dans sa poche. La concierge revient.
Non, monsieur Auguste, il n'y a rien pour vous.
Bon. Merci, madame Benoît.
Et il sort.
Maintenant, retournons chez ma mère.
Il retrouve sa mère dans la salle à manger en train de regarder la télévision. Il s'assoit sur une chaise à côté d'elle et soupire.
Comment peux-tu regarder une chose aussi insipide?
Elle hausse ses épaules.
Mais si ça me plaît, bien sûr, toi, il te faut des choses spéciales. Tu veux jouer à l'intellectuel. Mais là aussi, c'est très intéressant. Et puis, on apprend des tas de choses sur les artistes. On se cultive aussi. Il y a de belles chansons et on peut gagner des tas d'argent. Tu vois, Chantal Goya, eh bien, j'ai appris dans sa soirée qu'elle était plus intelligente que l'on le croyait.
Il hausse ses épaules.
J'ai l'impression que nous vivons dans deux mondes différents. Toi et moi. Pour moi, la culture.
Oui, je sais. C'est le théâtre, les concerts. Mais tout ça, c'est dépassé. Et puis, ça m'ennuie.
Bon, je vais me coucher.
Il s'approche de sa mère et l'embrasse.
Ne veille pas trop tard.
Non, dès que l'émission sera finie, je me coucherai moi aussi.
Et il sort pour aller dans sa chambre. Il va s'allonger sur le lit tout habillé.
J'espère qu'elle ne veut pas tarder à aller se coucher, parce que moi je suis fatigué. Je sens que je vais aller me coucher à point d'or encore.
Demi-heure plus tard, il entend sa mère qui va se coucher. lève. Il va aller prendre à son bureau un petit livre rouge. Ensuite, il va se recoucher pour lire.
C'est quand même mieux que sacrée soirée, la divine comédie.
Une heure plus tard, il est 23h30.
Il faut y aller. J'aimerais mieux rester ici à dormir. Je sens que je vais avoir plein de courbatures demain.
Il se lève. Dépose le livre sur le bureau et sort de la chambre en évitant de faire trop de bruit. File manteau, chapeau et foulard.
En avril, il faut que je fasse attention à ne pas prendre froid.
Il sort de l'appartement. Rue Longue, il entre dans l'allée et rentre chez lui. Pour entrer dans son appartement, il se déshabille pour se mettre en survêtement.
Que tout se passe bien. Merde, merde, j'ai oublié le sac plastique. Oh, tant pis, une couverture fera l'affaire. Bon.
Il va ouvrir le placard penderie en grand. En bas, avachi contre le mur, un jeune homme nu, le visage grimaçant, un couteau dans la poitrine.
J'ai de la chance. Ça ne sent pas grand-chose. Peut-être parce qu'il est jeune et qu'il ne fait pas trop chaud.
Il sort le cadavre de la penderie qui s'effondre sur le plancher.
Le sang ne coule pas. Ça m'évitera de laver. Bon, maintenant, il faut chercher une couverture.
Il va à l'armoire, l'ouvre et cherche.
Celle-là, celle-là est trop chaude. J'en aurai besoin pour cet hiver. Celle-ci, là, voilà.
Il la prend. Retourne vers le corps. La couverture à plat, à terre, à côté du corps. Fait rouler le corps dessus. Une fois qu'il est bien au milieu de la couverture, il le recouvre avec les bouts de couverture qui dépassent.
Oh, le mât qui n'était pas trop grand. Dommage, il était pas mal.
Il soulève le corps, enroulé dans la couverture, et le met sur ses épaules. arrivant devant le porte-manteau, où se trouve le manteau devant l'entrée, sans se défaire du paquet, il cherche dans ses poches le carré.
Le voilà.
Il le met dans sa poche et sort de l'appartement. Descend les escaliers.
Et tout de même lourd.
Il va jusqu'au rez-de-chaussée. Ouvre porte d'entrée de service qui donne dans le local vide ordure avec son carré. Il entre. L'odeur de pourriture, de produits désinfectants le prend à la gorge. Là se trouvent plusieurs poubelles conteneurs sur roulettes.
C'est pratique ça, à côté des petites poubelles qu'il y avait avant. Là-dedans, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et c'est déversé, broyé, sans que personne ne voie ce qu'il y a dedans.
Il dépose le corps à terre.
Qu'est-ce que ça peut puer ?
Il crache. L'odeur lui donne la nausée. Il ouvre un conteneur. Il fait la grimace. Il est à moitié vide. Il prend le corps avec la couverture et le met dedans. Il en ouvre un autre. Prend délicatement quelques sacs en plastique remplis de saleté pour cacher le corps. Ensuite, une fois que le corps est bien caché, il ferme les deux conteneurs. Du local, le ferme et entre dans l'allée.
Et voilà, c'est pas plus difficile, ni vu, ni connu. Demain matin, il ne restera plus aucune trace.
Monte les escaliers. Entre chez lui. Se laver les mains dans le petit lavabo qui se trouve dans un coin de la chambre. Il s'habille. Se peigne et sort pour rentrer chez lui.
Mal passé, je me suis mis dans un foutu pétrin, mais ça c'est plutôt bien fini maintenant. Et puis, demain les éboueurs vont passer et il ne restera plus aucune trace. Il était bien ce jeune, cela faisait des années que je rêvais d'en avoir un, et puis hier au soir, je l'ai rencontré sur les quais. Il était assis négligemment sur un banc, en passant de l'un à lui, il m'a tout de suite plu. Taille moyenne pour un gentil petit sourire. Il était en short et j'ai vu qu'il était bien charpenté, de belles cuisses bien fermes. Je me suis assis à ses côtés. Je l'ai fait parce qu'il n'y avait personne sur les quais. Je ne savais pas quoi lui dire. Alors j'ai simplement dit « Salut !»«
Bonjour !»«
Vous prenez le frais ?»«
Oui, il fait bon pour un mois de janvier. »«
Vous êtes étudiant, non ?»
Oui.
En quoi, si je ne suis pas trop indiscret?
Biologie.
Ah! Et en plus, je vois que vous avez fait du sport, vu que vous êtes bien charpenté.
Oui, je cours un peu.
C'est bien ça. La conversation s'éternisait, mais je voyais... dans ses yeux, il y avait quelque chose de coquin. Je te paye un verre. Il a accepté et nous allons aller dans un bar rue de la République.
Fameuse bière.
Tout de suite. Vous voulez une demi-pinte ou une pinte?
Non, une pinte, voyons. Mon grand-père m'a toujours dit de ne jamais faire les choses à moitié.
Oh, si je comprends bien, vous avez entendu parler de notre bière.
Nous sommes assis à une table peu en retrait des autres, et j'ai commandé deux bières.
Non, 17.
Vous avez fait votre armée?
Non, pas encore, dans 2 ans.
Et les filles, vous êtes fiancées?
Non, je ne suis pas fiancé. Pour ce qui est des filles, c'est toujours la même chose. Coucher une fois, de temps en temps, oui. Mais vivre avec elles, non, merci. Vous voyez, elles sont trop accaparantes. Il faut constamment s'occuper d'elles. Le monde doit tourner autour d'elles. Finalement, j'aime mieux être avec un bon copain.
18.
Oui.
Moi, j'étais animateur d'une émission culturelle à la radio. Et puis j'ai dit des conneries à l'antenne, ce qui fait que je me suis trouvé au chômage. Depuis 6 mois que je suis au chômage.
Vous êtes marié?
Non, pas du tout.
Et les mecs?
Oh, ça, je ne dis pas non.
Bonsoir, commissaire. Bonsoir, l'abbé.
On finit de boire notre bière, puis nous en avons pris une autre.
Ça va venir.
Le café se désemplissait. Il commençait à se faire tard.
Ça vous fait une belle série.
Après le troisième verre, nous avons commencé à être plus détendus. Je lui mettais les mains sur les cuisses. C'était ferme et dur. Cela me mettait le feu au sang. J'avais les yeux qui devenaient énormes. J'en pavais de ce petit. Des années que j'attendais ça. J'en avais assez de me masturber dans ma chambre en pensant à eux. Une de mes mains était sur sa cuisse et l'autre lui caressait le dos. Il ne disait rien, il me souriait avec des yeux coquins. On va chez moi. Il me fait vouer de la tête. Nous sommes partis.
Ça ne va pas?
Le foie.
Un blanc sec.
Gabriel
Mouchy,
qui
vient
d'un blanc sec. Malgré que j'habitais chez ma mère, j'avais besoin d'indépendance. Alors j'ai loué à un ami un studio sous un nom d'emprunt, en pensant que ce serait bien de l'avoir s'il m'arrivait une aventure. C'est ce qui m'est passé. Avant de rencontrer ce jeune, j'allais dans mon studio pour y rêver un peu. Donc, je l'ai mené chez moi.
Mais non.
Par l'allée, nous faisons attention de ne pas trop faire de bruit à cause de la concierge. Je tremblais d'émotion. Un jeune chez moi. J'ouvre la porte. Fais entrer et ferme la porte. Tiens, reste pas devant l'entrée. Entre.
C'est pas mal chez toi.
C'est petit. Tiens, enlève ton blouson.
Il le fait et le met sur le porte-manteau.
Aussi, je quitte manteau, écharpe et chapeau. Assieds-toi. Il s'assoit sur la chaise. Pas sur le rebord du lit.
C'est ici que tu habites?
Oui, en partie, ouais.
Ah.
Oui, je vis chez ma mère.
Tu as loué ça pour quand tu rencontres des mecs comme moi?
Il a étendu ses jambes. Je dépose une de mes mains dessus.
Eh bien, toi, alors ?
Je retire ma main. Excuse-moi.
Non, tu peux y aller.
Ah, bon. Alors, nous serions mieux allongés, non ? Il s'allonge à côté de moi. Il est allongé, les mains derrière la nuque. Je me mets à lui caresser les jambes de bas en haut. J'ai très chaud et le ventre ballonné par la bière. Manque de peau pour moi, je ne suis pas très en forme. Il a les jambes légèrement écartées, les yeux clos. Ses jambes sont blanches et n'ont presque pas de poils. Au bout d'un moment, il se soulève et me dit
« Attends, nous allons nous déshabiller. »
J'étais un peu gêné. J'aime pas me montrer nu. Je suis trop gros et flasque. Et je dois avouer que j'ai un sexe minuscule. Enfin, je me déshabille. Qui en fait autant ? Il se rallonge. Il est très beau. Peau blanche et lisse. Assez musclé, il bande. Il me regarde me finir de me déshabiller. Je suis tout rouge. Quelle idée a eu ma mère de m'acheter des dessous d'amarre. Et en plus, c'est des caleçons. Ouf, j'ai enfin fini. Je suis nu et parce que je suis ridicule et laid. En plus de cela, j'ai la pia qui me ballonne et me donne des erreurs. Je serais mieux dans mon lit à dormir, mais pour une fois que j'ai un jeune avec moi. Je me penche vers lui et me mets à lui caresser la poitrine, les bras. Lui, comme tout à l'heure, a les yeux clos. Au bout d'un moment, il lève les yeux et me regarde.
Tu ne bandes pas ?
Non, c'est la bière, j'ai trop bu.
Ah !
Il referme les yeux. Je continue à le caresser. Je trouve sa peau douce et fine. Délicieusement douce. Peut-être même trop. Tellement douce que je me dis que ce serait délicieux d'y enfoncer quelque chose. D'y enfoncer quelque chose. En le touchant comme ça, j'avais l'impression qu'il se donnait à moi, que je pouvais en faire tout ce que je voulais. J'en ai ressenti quelque chose d'étrange. Tout en le caressant, de temps en temps, je le pinçais. Il ne réagissait pas, cela me faisait rire. Mon Dieu, que c'est bête de s'abandonner comme ça. Je peux en faire ce que je veux, je peux même le tuer si je veux. Tu es ma chose, je suis ton maître. Oui, je sentais vraiment qu'il était ma chose. Quelle expérience merveilleuse. Moi qui passais mon temps à être au garde-à-vous devant ma mère. J'avais une personne avec qui je pouvais faire ce que je veux. Le temps passait ainsi comme ça. Tout en continuant à le caresser, je faisais vagabonder mon esprit. Je m'imaginais tant de choses que je pouvais faire avec lui. Tout à coup, il ouvre les yeux et dit
« Il est quelle heure ?»«
Ah, je vais voir. » Je me lève et vais voir dans un coin cuisine où se trouve mon réveil. Du réveil se trouvait un couteau. Non, quelle idée. Mais si, tant de cette expérience. Très peu d'hommes ont eu la chance de tuer un autre homme. Tu verras au moins ce que c'est. C'est peut-être ta seule chance de le faire. Il ne se défendra même pas. Tu dois faire un drôle d'effet que d'enfoncer ce couteau dans la poitrine de quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu vas faire du corps ? Un corps, ça ne se jette pas comme ça dans une poubelle ? Pourquoi pas ? assez grande.
Tu alors ?
Je suis en saute et vais vers lui. En le voyant nu comme ça, sans défense et yeux clos, je retourne prendre le couteau. Cache derrière mon dos et retourne vers le lit.
Tu alors ?
23 heures. Elle a toujours les yeux clos et ne bouge pas. Je lève le couteau sans trembler et l'enfonce dans la poitrine. Ah ! Pousser un cri et c'est tout. Je suis en sueur. Eh bien, j'avais bien fait. J'aurais jamais cru que ça aurait été aussi facile. Ma mère qui disait que j'étais un bon à rien, que je ne savais rien faire. Là, j'ai fait quelque chose que peu de personnes sont capables de faire. J'étais vraiment heureux. Je me sentais bien. J'avais fait quelque chose de difficile sans l'aide de ma mère. Malheureusement, il commençait à se faire tard et je voulais dormir dans mon lit. Merde ! Le calavis d'ordure est fermé. Je ne peux pas y aller ce soir. Je décidai de cacher le corps dans le placard aux penderies. Lendemain, j'irai voler le carré qui ouvre la porte au vide ordure. Après le corps, les le mis dans le placard. Mangeai les draps et me couchai. Demain encore une rude journée. Et voilà comment la chose a été faite.
Lendemain, dans l'après-midi, il va voir Long si tout s'est bien passé. Il trouve la concierge.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Auguste.
Vous allez bien ?
Ah, ne m'en parlez pas. Il y a la grève des éboueurs. Mes poubelles sont pleines. Je ne sais plus où mettre les ordures. Et puis en plus de ça, est-ce que ça peut puer? Je ne sais pas si c'est la viande de mouton des Arabes qui sent comme ça.
Au revoir, madame.
Et il sort de l'immeuble.
Merde, la grève des éboueurs.
La journée en tassant ses conteneurs, faire de la place et mettre des sachets en plus dedans.
Il découvre le corps.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Prévenu la police qui a emmené le corps et commencé l'enquête. Puis la grève des éboueurs, Robert ne va plus au Long. La police, elle, fait son enquête dans l'immeuble.
Celui-là. C'est l'appartement qui est sous-loué à un ami de Monsieur Pierre.
Qui est-ce ?
Monsieur Auguste, c'est tout ?
Oui.
Se sont renseignés au propriétaire et lui ont demandé de regarder le studio. Comme il était meublé, le propriétaire a accepté. La police est entrée. Regardez et trouvez dans un coin de la pièce des vêtements. Ils ont fouillé et trouvé dans une poche de revolver du pantalon une carte d'identité. La photo ressemblait à celle du mort. Elle va ouvrir. Madame Agathe Verson. J'aimerais parler à votre fils.
Père, c'est pour toi.
Il arrive.
Oui.
Monsieur Robert Verson, commissaire Dumoulin, nous avons quelques questions à vous poser. Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît ? Vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Robert. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.